RFI, bonjour, 17h en temps universel, bonsoir, 18h à Paris, 19h à Goma.
Nicolas Brousse.
Les combats ont repris dans l'est de la République démocratique du Congo. Le conflit avec le M23 entraîne des risques grandissants pour la population, s'inquiète Human Rights Watch, alors que des centaines de milliers d'habitants ont déjà dû fuir. Résultat, situation humanitaire catastrophique à Goma et aucun signe d'apaisement malgré les exhortations de la communauté internationale. Donald Trump met ses promesses ou plutôt ses menaces à exécution. Les licenciements de hauts fonctionnaires s'enchaînent et les agences fédérales chargées de la diversité et la justice environnementale vont se retrouver dépeuplées. Alors que l'AFD s'annonce plus fort que jamais, des dizaines de milliers de personnes manifestent contre l'extrême droite aujourd'hui dans une soixantaine de villes allemandes. Nous serons en direct de Berlin. La tête et les jambes, sport et culture pour refermer ce journal avec du tennis et le grand retour du rappeur Youssoupha. Nous partons donc pour la RDC où l'Est est toujours meurtri par de violents affrontements entre l'armée congolaise et ses alliés. Affrontements avec le groupe armé M23, lui soutenu par le Rwanda. Des combats à une vingtaine de kilomètres seulement de la capitale provinciale, Goma. Une situation qui crée de l'inquiétude au sein de la communauté internationale avec plusieurs appels à la cessation immédiate des hostilités. Pauline Azidi, vous êtes notre envoyée spéciale permanente en direct de Kinshasa. Cessation immédiate des hostilités, on n'y est pas ce soir.
Non, pas du tout sur le terrain. Les positions semblent être un peu figées jusqu'ici. Sur le front nord, des affrontements seraient en cours du côté du front nord de Goma. En revanche, beaucoup de tensions aussi sur le front ouest vers Sake, où sont engagées des forces internationales, celles de la MONUSCO et des forces régionales, celles de la Communauté d'Afrique australe. La MONUSCO reconnaît des blessés dans ses rangs et l'armée malawite annonce que 3 de ses soldats ont été tués. À Goma, la situation humanitaire est compliquée avec de nouveaux déplacés qui se sont ajoutés aux 600 000 personnes déjà présentes dans le secteur en plus du million d'habitants. Plusieurs organisations internationales ont déclenché leur plan d'évacuation. C'est le cas des Nations Unies qui annoncent la relocalisation de tout son personnel non essentiel mais qui assure continuer ses opérations. Sur le plan diplomatique, plusieurs déclarations ont condamné cette offensive du M23 et son allié rwandais et cette pression sécuritaire sur Goma. L'Union africaine a par la voix de du président de la commission, Moussa Faki Mahamat, exprimé sa vive préoccupation et a rappelé l'importance de revenir au processus de Luanda dans un communiqué où le M23 n'est en revanche pas mentionné.
Pauline Azidi en direct de Kinshasa. On revient sur la situation à 18h30 TU avec l'équipe d'Afrique Soir et à toute heure sur RFI.fr. En attendant, nouvel échange entre Israël et le Hamas ce samedi. 4 soldats israéliennes contre 200 prisonniers palestiniens après plus de 15 mois de conflit. Joie de part et d'autre, gâchée par un blocage de dernière minute concernant un autre point de l'accord. Le retour dans le nord de la bande de Gaza de centaines de milliers de déplacés. Israël conditionne ce retour à la libération d'une otage civile ce samedi. Ce n'est pas encore le cas ce soir, même si des responsables palestiniens assurent qu'elle est vivante et en bonne santé. Les États-Unis annoncent qu'ils vont poursuivre leurs efforts avec Israël pour, selon le communiqué, la libération de tous les otages restants. C'est donc ce qu'annonce la Maison-Blanche, dont le nouveau locataire est depuis lundi un certain Donald Trump. Il a déjà commencé sur le plan intérieur la purge de l'administration qu'il menaçait de mettre en œuvre durant sa campagne électorale. Hier, les agences fédérales américaines ont appris qu'elles avaient 2 mois, pas plus, devant elles pour fermer leur programme de défense de la diversité et pour limoger tous les fonctionnaires qui y travaillent. Donald Trump n'aura donc pas perdu de temps sur ce sujet de la diversité qui est l'une des cibles favorites de la droite américaine. Confirmation avec Daniel Valo.
Ce fut l'une des cibles préférées de Donald Trump durant la campagne électorale, la défense de la diversité au sein des administrations et des entreprises. Dans le collimateur du président américain se trouvent tous les programmes DEIA, un acronyme qui signifie diversité, équité, inclusion, accessibilité. Concrètement, les agences fédérales auront désormais 60 jours pour limoger les fonctionnaires qui travaillent à la promotion et à la défense de la diversité. 5 jours après l'investiture de Donald Trump, il s'agit là de la première étape officielle de la grande purge qui s'annonce au sein de l'administration fédérale. Avec une autre décision importante révélée par le Washington Post, le limogeage sans précédent de 12 inspecteurs généraux de l'administration. C'est un véritable massacre, a confié l'un de ses hauts fonctionnaires au journal américain, et cela risque, a-t-il ajouté, de saper les fondations de tout le système. Le poste de contrôleur général avait été mis en place à la fin des années 70 à la suite du Watergate pour permettre des enquêtes indépendantes sur les opérations de l'administration fédérale.
Daniel Valot du service international des RFI. Elon Musk, considéré par beaucoup d'observateurs comme le président américain bis, intervient ce soir via une vidéo dans un meeting de l'AFD, le parti très à droite dont il redit ce soir qu'il est le meilleur espoir pour l'Allemagne. Mais aujourd'hui dans le pays, l'heure était plutôt aux manifestations contre cette extrême droite, au moment où la classe politique allemande est en plein débat sur le maintien ou pas d'un cordon sanitaire. Comprenez la pratique politique qui exclut justement ce mouvement de l'extrême droite, en l'occurrence ici l'AFD, de toute alliance politique. Des dizaines de milliers de personnes dans les rues d'une soixantaine de villes aujourd'hui. Salomé Incohen, vous êtes dans le cortège de la capitale, Berlin. Les organisateurs ont donc réussi à mobiliser.
Alors oui, tout à fait, Nicolas. À l'heure qu'il est, on n'a pas encore les chiffres officiels du nombre de participants ici à Berlin, mais plusieurs dizaines de milliers de personnes, d'après ce que je vois et d'après ce que les médias de locaux commencent à décompter, ça c'est certain. C'est une ambiance assez familiale finalement dans cette manifestation qui a débuté vers 16h30 cet après-midi et qui rappelle forcément le mouvement de protestation de l'an dernier contre l'extrême droite, qui avait fait descendre 4 millions d'Allemands dans les rues en janvier et février 2024. Et les organisateurs d'aujourd'hui avaient demandé aux participants de venir avec une lumière pour, je cite, créer une mer de lumière contre l'extrême droite. Alors, depuis que la nuit est tombée ici à Berlin, la place derrière la porte de Brandebourg est illuminée avec tout un tas de petites lampes, de lanternes et de bougies. Une manifestante me disait même y voir un symbole de la lumière contre dans l'obscurité. Et enfin, il n'y a pas eu que des pancartes anti-AFD dans ce cortège. De nombreux manifestants protestaient aussi contre les propos de Friedrich Merz, le candidat de CDU et probable futur chancelier, puisque cette semaine, après l'attaque d'Aschaffenburg qui avait fait 2 morts, il expliquait, donc Friedrich Merz, vouloir renforcer encore plus les mesures anti-immigration s'il arrivait à la chancellerie. Un discours de plus en plus proche de celui de l'extrême droite et qui fait dire à ses détracteurs que le cordon sanitaire contre l'AFD est de plus en plus faible.
Salomé Hénin-Cohen en direct de Berlin. On part en Australie, en tennis, la finale femme de l'Open d'Australie a tenu toutes ses promesses et à la fin c'est l'américaine Madison Keys qui gagne. Elle crée la sensation en dominant la numéro 1 mondiale. C'est son tout premier grand chelem à 29 ans. Compte rendu à Melbourne d'Arthur Franc.
Madison, entrée dans la danse, l'américaine attendait ce moment depuis très longtemps. Après un dernier coup droit gagnant, elle a enlacé son clan et s'est assise pour savourer son exploit. Battue en finale de l'US Open 2017, Maddy n'a pas manqué son deuxième grand rendez-vous.
Je voulais cela depuis tellement de temps. Je n'étais pas sûre de pouvoir revivre un jour une finale de Grand Chelem. Je ne me pensais pas capable de me retrouver à nouveau en position de gagner un tel titre. Et mon équipe a cru en moi, alors merci beaucoup.
Relâchée et puissante, Keys n'a pas tremblé lorsque Zabalenka a égalisé à une manche partout. L'américaine a ponctué une quinzaine de rêves à Melbourne, épinglant 5 têtes de série, dont les 2 meilleures joueuses du monde. La native de Rock Island a prouvé qu'elle était l'une des meilleures frappeuses du circuit, après avoir longtemps slalomé entre les blessures et les désillusions. Coachée par son mari, Bjorn Fratangelo, Keys a trouvé la combinaison parfaite et retrouvera lundi son meilleur classement, 7e. Arthur Franc, Melbourne, RFI.
Madison Keys qui intègre le top 10 et qui fait tomber la double tenante du titre, ce que rêve de faire demain l'Allemand Alexander Zverev dans la finale messieurs de l'Open d'Australie. Ce sera face à l'Italien Jannik Sinner. Premiers échanges dès 8h30, temps universel. Je vous avais promis de la culture. On va manquer de temps, donc si vous voulez découvrir le nouvel album de Youssoupha avec Olivier Roger, c'est sur notre site internet rfi.fr que cela se passe. Et puis décidément, culture contrariée, puisqu'à Londres, le British Museum a dû fermer partiellement officiellement plusieurs de ses galeries aujourd'hui après la mise hors service de ses systèmes informatiques par un ex-contractuel qui visiblement n'a pas apprécié d'être licencié la semaine passée. À Paris, le musée d'Orsay annonce lui ce samedi un retour à la normale après avoir dû désactiver sa billetterie en ligne hier, victime d'une fraude au site internet d'e-miroir. Les visiteurs qui voulaient acheter leurs billets pour ce musée parisien étaient renvoyés sans qu'ils s'en rendent compte sur deux faux sites. Et puis en début de semaine, le parc Astérix avait déjà annoncé avoir été victime d'une telle fraude. Tout de suite, c'est l'atelier politique que vous retrouvez sur Radio France Internationale. Et puis le prochain journal, ce sera dans pile 50 minutes. Merci d'écouter RFI.